RJB Info.
Et le journal, c'est avec vous, Séverine Boé.
La vaccination contre le coronavirus a été lancée aujourd'hui dans le canton de Berne. Nous nous sommes rendus au centre de vaccination du Jura bernois qui est ouvert ce matin à Tavannes. Toujours dans la lutte contre le Covid-19, le canton de Berne a également indiqué aujourd'hui qu'il est favorable à une prolongation des mesures anti-coronavirus jusqu'à fin février. Les précisions dans un instant. Après Adelboden, ce week-end, les courses du Lauberhorn devraient avoir lieu les vendredis. Si le coronavirus ne vient pas chambouler les plans du Cirque Blanc, les techniciens de la Coupe du Monde de ski n'auront donc que peu de répit. Au contraire, les géantistes devront patienter jusqu'au 19 février. Météo, le soleil est bien présent dans le Jura bernois, tandis que la grisaille prédomine à basse altitude. Les températures restent froides entre moins 2 et moins 1 degré au meilleur de la journée. C'est parti pour les vaccins dans le canton de Berne. Les premières injections contre le Covid-19 ont été administrées ce matin, notamment dans le centre de vaccination de Tavannes. Il se trouve à la rue du Pierre-Pertuis, dans les anciens locaux de l'orientation professionnelle, entre-temps transformé en centre de dépistage. 4 personnes y travaillent, un médecin, 2 infirmières et une personne qui s'occupe de l'administratif. Alain Kenfak, directeur médical de l'hôpital du Jura bernois, nous présente ce nouveau centre de vaccination.
Nous avons 4 box de vaccination avec 2 personnes dédiées à la vaccination, ce qui permet à la fois de recevoir environ 4 patients, c'est-à-dire 2 qui se font injecter le vaccin et 2 qui sont en train de faire leur surveillance et d'effets secondaires. Donc ça pourra se faire dans chacun des box et en cas d'effets secondaires importants nécessitant une surveillance, nous avons en plus un box de surveillance à côté avec un brancard et puis du matériel médical pour s'occuper du patient si besoin.
Par jour, vous pouvez vacciner combien de personnes ?
Cette semaine, on va commencer avec une 20aine de patients par jour et normalement la semaine prochaine, on sera à la 40aine de patients par jour. Avec les 4 box, normalement, on pourrait aller un peu plus. Peut-être qu'il faudra renforcer un peu les équipes pour ça. Mais pour l'instant, l'équipe est calibrée pour faire 40 patients par jour dès la semaine prochaine.
La première à avoir reçu la piqûre ce matin s'appelle Yvette Arnaud, 96 ans. Elle vit en région bernoise. Yvette Arnaud nous explique ce que changera ce vaccin pour elle.
La sensation de liberté. Oui. Une fois qu'on pourra de nouveau le faire, c'est sûr. Aller au restaurant, sortir, voir mes petits-enfants, exactement.
Et donc là, vous avez reçu la piqûre il y a quelques minutes. Vous vous sentez comment ?
Bien. Il n'y a pas de différence.
Vous n'avez pas peur des effets secondaires ?
J'espère qu'il n'y en a pas. Mais ça arrive, vous croyez qu'il y a des effets secondaires aussi ?
C'est des petites choses.
Non, mais j'y pense pas.
Pierre-Alain Schneck, directeur de la Santé et président du gouvernement bernois, était présent ce matin à Tavannes pour le lancement de la vaccination dans le canton. Pour le natif de Champeau de 58 ans, c'est une fierté.
Eh bien, nous commençons aujourd'hui dans 5 centres, hein, mais je suis extrêmement fier que dans ma région, nous pouvons aussi offrir une telle prestation à sa population. C'est, je dirais, plusieurs mois de travail intense qui se concrétise aujourd'hui matériellement. Donc il y a un travail phénoménal qui se cache finalement là derrière, où énormément de personnes dans les régions, à Berne, partout, ont œuvré pour rendre cela possible aujourd'hui.
Vous allez vous inscrire ?
Alors, quand la vaccination sera disponible pour des personnes de mon âge, respectivement de ma catégorie, oui, je me ferai vacciner. Malheureusement ou heureusement, j'ai encore pas dépassé 75 ans.
Mais du coup, vous allez suivre la procédure normale, vous n'allez pas bénéficier d'une certaine priorité par rapport à votre statut d'élu.
Alors, le canton de Berne a décidé de mettre en œuvre les principes édictés par l'Office fédéral de la santé publique. Il n'y aura pas de passe-droit pour des élus, et en tout cas, il n'y aura pas de passe-droit en ce qui me concerne.
Aujourd'hui, 5 centres de vaccination ont été ouverts dans le canton de Berne. D'autres suivront. Il faudra par exemple attendre le 18 janvier pour se faire vacciner à Bienne. Gundekar Giebel, porte-parole de la direction de la santé, explique ce décalage entre les régions.
Le canton de Berne a choisi un chemin de collaboration avec toutes les régions hospitalières du canton. Ça veut dire qu'on a comme partenaire les hôpitaux. Chaque hôpital a un autre rythme, comment il peut installer et puis mettre à disposition le personnel, installer les chambres de vaccination, trouver des locaux. Et puis on ne voulait pas presser les hôpitaux dans cette période où ils sont déjà bien occupés, bien sous pression, pas encore mettre une pression de plus. C'est pourquoi certains hôpitaux, ils ouvrent un peu plus tard.
Un dossier réalisé par Célia Berthollet. Le Conseil exécutif est favorable à une prolongation des mesures anti-Covid jusqu'à fin février. Sa prise de position à l'attention de la Confédération a été rendue publique ce matin. Le gouvernement bernois partage les appréciations du Conseil fédéral à propos de la situation sanitaire et du besoin d'alléger la pression sur les hôpitaux. Mais il pose tout de même certaines conditions, Olivier.
Et la première, c'est qu'il faut réglementer en urgence le soutien aux entreprises concernées par ces mesures. On pense surtout aux restaurants, car oui, la situation reste tendue. On s'inquiète aussi de ces mutations plus contagieuses du virus, mais il faut des solutions rapides pour l'économie. Jusqu'à maintenant, pour bénéficier du programme fédéral d'aide au cas de rigueur, un examen au cas par cas est réalisé. Le Conseil exécutif n'en veut plus, il veut simplifier les démarches et propose que les entreprises qui ont subi au moins 60 jours de fermeture forcée depuis le 1er novembre soient directement considérées comme des cas de rigueur sans autre condition à remplir. L'indemnisation serait forfaitaire, par exemple la couverture de 50% des charges fixes. On estime à 23 000 en Suisse le nombre d'entreprises dans le secteur de l'hôtellerie-restauration qui deviendraient immédiatement des cas de rigueur, grâce à ces adaptations, à des modifications qui permettraient d'agir vite, efficacement, en temps utile et d'éviter une vague de faillites selon le Conseil exécutif. Et ce dernier ajoute aussi que c'est à la Confédération d'assumer l'entière responsabilité du volet financier. Il faut un concept uniforme en Suisse aussi pour éviter la concurrence entre les cantons.
Prolonger les mesures, c'est une chose, et le canton de Berne y est favorable, mais que pense-t-il d'un durcissement ?
Eh bien, les autorités n'y sont pas formellement opposées, cela dépendra évidemment de l'évolution de la situation sanitaire, et à ce niveau, on navigue un peu à vue, il faut bien le dire. Mais là encore, le Conseil exécutif pose certaines conditions, par exemple, la proposition de fermer tous les magasins va trop loin, selon lui. Du moins, pour le moment, la situation ne le justifierait pas aujourd'hui, parce que si ce pas devait être franchi, 3000 entreprises supplémentaires se retrouveraient dans une situation de rigueur dans le seul canton de Berne, c'est énorme. Le gouvernement bernois est aussi opposé à la limitation des réunions privées à deux ménages, trop difficile de la faire respecter et surtout trop contraignante pour les familles recomposées. Enfin, un mot sur le télétravail, une bonne chose selon le Conseil exécutif, mais qui doit bénéficier d'une certaine flexibilité.
Merci Olivier. La Confédération se penchera sur la prise de position des cantons. La décision définitive sur la prolongation des mesures Covid jusqu'à fin février sera communiquée mercredi. Ce 11 janvier marque l'anniversaire du premier mort connu du nouveau coronavirus, un événement qui a été ignoré aujourd'hui à Wuhan. Dans cette ville du centre du pays comme ailleurs en Chine, la pandémie a été largement maîtrisée dès le printemps et le bilan national des décès reste officiellement à 4634 depuis mi-mai. Plus de 1,9 million de personnes ont depuis perdu la vie à la surface du globe des suites de la pandémie. Dans le même temps, le pays asiatique cherche à gommer son image d'épicentre du Covid-19. Les précisions de Raphaël Chalvera.
Les habitants de Wuhan vaquaient normalement à leurs occupations ce matin alors que les médias du régime communiste taisaient ce premier anniversaire. Le 11 janvier 2020, la Chine annonçait qu'un premier mort du mystérieux virus avait été enregistré deux jours plus tôt dans la métropole de 11 millions d'habitants. Le nom même de la première victime n'a jamais été rendu public. On sait simplement qu'il s'agit d'un homme de 61 ans qui fréquentait le marché Wuhan, considéré comme le premier grand foyer de l'épidémie. Wuhan avait été la première ville à être placée en quarantaine à compter du 23 janvier 2020. C'est à présent la ville la plus sûre de Chine et même du monde. Fanfaronnait aujourd'hui un sexagénaire dans un parc où des retraités dansent ou s'adonnent à leurs exercices matinaux.
L'Organisation mondiale de la santé va pouvoir entamer son enquête en Chine sur l'origine du coronavirus. Une équipe d'experts commencera sa mission jeudi, selon une annonce faite aujourd'hui par le ministère chinois de la Santé. Cette visite est ultra sensible pour Pékin, soucieux d'écarter toute responsabilité en lien avec cette épidémie. Initialement prévue la semaine dernière, la visite avait été annulée à la dernière minute, faute de toutes les autorisations nécessaires. Une voiture a terminé sa course sur le toit ce matin sur l'A16 à la hauteur de Péry. Le conducteur circulait en direction de Tavannes. Peu après 7 heures, il a heurté la glissière de sécurité ainsi qu'un candélabre peu avant le pont et a fini sur le toit après un tonneau, selon un communiqué de la police cantonale bernoise. L'homme souffre de blessures légères. Il a pu sortir seul du véhicule et a été transporté en ambulance à l'hôpital. La circulation sur l'A16 a été bloquée plusieurs heures. Ils étaient une douzaine ce matin à avoir bravé le froid. Les militants du climat se sont retrouvés devant la chancellerie fédérale. Ils ont déposé quelques 7000 signatures contre la loi sur le CO2, un nombre inférieur aux espoirs des activistes qui soulignent que les mesures sanitaires ont largement entravé leur récolte de paraphes en les empêchant d'aller à la rencontre de la population. Autre obstacle, aucun grand parti national n'a soutenu cette démarche. Le PS et les Verts, notamment, ont admis que le texte adopté par le Parlement n'était pas parfait, mais pour eux, il s'agit d'un premier pas qui vaut mieux qu'aucune loi du tout. Une vision que réfute Franziska Meinhertz, porte-parole pour la grève du climat Vaud et Solidarité Vaud.
La loi sur le CO2, c'est pas un petit pas, c'est vraiment un pas dans la mauvaise direction. Dans le sens que ce qu'il nous faut pour tenir les objectifs de l'accord de Paris, et même pour avoir la moindre chance pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, c'est une transformation fondamentale dans les secteurs polluants. Et la loi sur le CO2, elle fait le contraire, elle renforce les structures existantes avec quelques petites mesures cosmétiques. Donc en fait, elle nous met sur une trajectoire où on risque de rater tous les objectifs. Et c'est cette trajectoire-là qu'il faut combattre, et c'est aussi la politique climatique défendue par la droite et la bourgeoisie et les lobbies pétroliers et automobiles qu'il faut combattre.
En effet, à l'opposé de l'échiquier politique, un autre référendum a été lancé contre cette loi. Cette fois, des associations économiques sont à la manœuvre avec le soutien de l'UDC. Mais pour Franziska Meinhertz, pas question de mettre les deux démarches dans le même bateau.
Le bateau de l'UDC, il va vers toujours plus de cadeaux pour les industries fossiles, pour le lobby automobile, tandis que nous, ce qu'on veut, c'est une transformation sociale, solidaire et écologiste. Donc c'est deux bateaux complètement différents qui vont dans deux directions opposées, et c'est pour ça que nous déposons nos signatures. C'est justement pour avoir ce deuxième bateau et pour éviter que la société, elle, voie droit contre le mur.
Précisons que le second référendum sera déposé demain à la chancellerie fédérale.
RJB, il est midi 27.
Sport. Peu, voire pas de répit pour les fins techniciens du Cirque Blanc. La Coupe du Monde masculine de ski alpin a fait escale ce week-end à Adelboden. Avec deux podiums en géant et trois coureurs dans le top 10 hier en slalom, le bilan est positif. Les spécialistes des piquets auront par ailleurs l'occasion d'améliorer encore leur performance, toujours dans les Alpes bernoises. En slalom est prévu dimanche à Wengen, pour autant que la course ait lieu. En raison du Covid-19, les équipes ont été informées aujourd'hui qu'elles ne devaient pas voyager vers la station bernoise. Mais Wengen ou pas, les slalomeurs ont rendez-vous à Kitzbühel et Schladming en Autriche, puis à Chamonix en France avant la fin du mois. Un vrai marathon que le Suisse Daniel Yule aborde avec envie.
On sait que le mois de janvier est long et puis maintenant il va falloir continuer comme ça, pas lâcher le morceau, garder le couteau entre les dents et puis se battre tous les week-ends.
Parlons-en de ce mois de janvier qui va être très chargé jusqu'aux mondiaux. Ça va être quoi le mot d'ordre en ce qui vous concerne ?
Essayez de toujours garder les jambes et la tête fraîches. Les semaines entre les courses, ce sera faire des petites adaptations au niveau de ce qu'on peut. Mais vraiment, je pense qu'il va falloir essayer de beaucoup miser sur la récupération et vraiment la légèreté, que ce soit dans la tête ou dans les jambes.
Pour les géantistes qui étaient à l'œuvre vendredi et samedi à Adelboden, l'heure est maintenant à la patience. La prochaine course dans cette discipline est prévue le 19 février, soit lors des championnats du monde à Cortina d'Ampezzo en Italie. D'ici là, l'attente risque donc d'être longue. Le Valaisan Justin Murizier.
Bon, nous, on a assez l'habitude parce qu'à Solden, jusqu'au deuxième géant, c'est souvent comme ça. Donc, on sait qu'il ne faut pas trop paniquer, préparer, construire gentiment, garder cette dynamique qu'on a dans l'équipe. Certains, ils vont sur les slaloms, comme Loïc. Marco va sur la descente, moi un peu sur le super G. Et on va se rejoindre début février pour faire des entraînements ensemble, je pense, et essayer de se préparer au mieux pour les mondiaux.
Un sujet signé Julien Traxel, notre envoyé spécial à Adelboden. Et en hockey sur glace, Gaëtan Haas manquera le début de saison cette semaine avec les Oilers d'Edmonton en NHL. L'international suisse a été testé positif au coronavirus le 28 décembre à son arrivée en Amérique du Nord. Le Biennois n'a pu quitter l'isolation que vendredi dernier. Il aurait souffert de forts maux de tête, de perte d'énergie et de fatigue pendant la maladie. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes encore à table. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h. Excellent après-midi.
Et dans la suite, on va faire un petit point sur la météo, également voir si les pistes sont bonnes dans la région. Et puis, on aura un petit mec aussi à accueillir. Cette météo, tout d'abord, avec ce début de semaine qui se fait en deux tons, on peut dire, du ciel dégagé et bien ensoleillé sur les hauteurs, et puis à basse altitude, un petit peu plus de nuages. Avec tout ça, on a des températures qui sont égal à moins 2 degrés à Bienne, dans la vallée de Tavannes, ainsi qu'à Moutier et Delémont, moins 1 pour le vallon de Saint-Imier, ainsi qu'à La Neuville. La suite, selon les experts de Météo News, avec demain un ciel qui sera rapidement couvert, avec quelques chutes de neige également jusqu'en plaine, qui vont arriver avant la mi-journée, paraît-il, et se généraliser ensuite dans l'après-midi avec de fortes rafales de vent.